qu'on verra la Jérusalem céleste, les portes de perles, enfin, etc. Toutes choses magnifiques, certes, mais ce qui est de plus extraordinaire, c'est qu'on le verra et qu'on sera avec lui. Parce qu'en fait, c'est ça, n'est-ce pas, qui est pour nous le plus précieux, le trésor le plus riche, que son nom soit béni. On va donc continuer, poursuivre ce que nous avons vu ce matin, passer à une seconde étape concernant le retour du Seigneur, mais plus précisément, dans un premier temps, l'enlèvement de l'Église. Et nous avons conclu avec cette diapositive ce matin, où il était question donc de ces quatre mots qui résument en fait cet enlèvement. C'est le signal, la résurrection, la transformation et l'enlèvement. Un signal qui en fait est le top départ, si je puis dire, de cet événement extraordinaire que nous allons vivre, je l'espère, nous tous qui sommes ici après-midi. Sinon, c'est le moment. C'est encore jour de grâce, comme on l'a entendu dans une prière tout à l'heure. Et c'est le moment de donner son cœur au Seigneur. Mais j'espère que nous tous l'avons fait, qui sommes ici. Et ainsi, ce sera donc ce moment-là où tout va se mettre en route, mais en un clin d'œil, dit l'Écriture. C'est un claquement de cils, c'est vite fait, ça. Et en un clin d'œil, nous serons enlevés. Il y aura la résurrection donc, des morts, comme on l'a vu ce matin, la transformation de ceux qui seront encore vivants, des chrétiens, bien sûr, encore vivants, et puis l'enlèvement, mais tous ensemble, et tout ça, presque instantanément, en tout cas, en même temps. On va revenir donc un petit peu sur cela cet après-midi, et je vais relire, et si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez relire avec moi, toujours dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, nous lirons au chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 15, puisque nous avons plus particulièrement considéré les deux premiers versets 13 et 14 ce matin. Mais au verset 15, 1 Thessaloniciens 4, 15, il est écrit « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Consolez-vous donc, comme on le verra dans ces temps à venir, c'est littéralement, c'est exhortez-vous, encouragez-vous, fortifiez-vous mutuellement par ces paroles. Donc on a vu ce matin déjà, ce graphique, merci, on a déjà vu ce matin ce graphique et donc, en fait, ici, on résume, non pas par la première partie, mais dans la deuxième partie, on résume en fait ce qu'est tout simplement l'enlèvement de l'Église, qui est marqué ici « seconde venue de Christ » parce que l'enlèvement de l'Église n'est qu'une première étape qui sera ensuite suivie par la seconde, le retour de Christ, cette fois avec les croyants sur la terre. Parce que souvent, ça, nous l'oublions. On pense à l'enlèvement de l'Église, on pense au fait qu'on sera avec le Seigneur, etc. Mais on va revenir avec lui. Lorsque le Seigneur reviendra, nous reviendrons avec lui. Et nous reviendrons avec lui pour partager à la fois sa gloire, mais également son règne. Vous connaissez cette expression qu'on aura l'occasion de voir, « Nous régnerons avec lui », dira l'apôtre. Et nous allons donc régner avec le Seigneur. Paul dira même, reprochant aux chrétiens de Corinthe qui avaient des procès entre eux, etc., leur rappelant que nous aurons à juger même les anges, en disant alors, est-ce que vous avez besoin d'aller voir les juges et les avocats enfin, séculiers en quelque sorte, pour régler vos affaires entre vous. Hein, ne savez-vous pas, ne vous rappelez-vous pas que nous jugerons même les anges? Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un au milieu de vous qui puisse être un peu comme un médiateur ou hein, quelqu'un qui puisse vous aider à régler vos conflits ou bien vos bisbilles, en quelque sorte, hein? Voilà, nous sommes donc appelés à régner, nous régnerons avec le Seigneur. Mais avant cela, eh bien, il convient déjà de parler de ce qui va se produire lors de l'enlèvement de l'Église. Je retiens bien cette parole, hein, l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire, bien sûr, l'ensemble des croyants, nous sommes d'accord, hein, pas une dénomination particulière, mais l'ensemble de tous les croyants hein, qui auront placé leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais n'oublions pas, c'est l'Église. J'y reviendrai. La première des choses que nous voyons, n'est-ce pas, que nous allons voir, c'est d'abord le Seigneur lui-même. Ensuite, pour reprendre l'ordre du texte que nous avons lu, un signal qui est donné, la voix d'un archange, la trompette de Dieu fait partie de ce signal en quelque sorte. Il descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants, nous serons transformés, puis enlevés tous ensemble. Ce point aussi sur lequel je voudrais apporter une précision, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, pour être toujours avec le Seigneur, et consolez-vous ou exhortez-vous. On va donc voir ces points. Alors bien sûr, je vais peut-être sauter un point ou deux, je vais passer rapidement sur d'autres parce que eh bien ils sont par eux-mêmes déjà facilement compréhensibles et explicites, mais il y a des choses quand même que je voudrais souligner dans certains de ces points. Le premier point donc, diapo suivante. Donc la diapo suivante s'il vous plaît. Voilà. Le premier point donc c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même. Vous vous rappelez peut-être de ce passage de Jean 14 où Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et puis, j'ai aussi noté ce texte d'Hébreux 9, 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. À ceux qui l'attendent pour leur salut. Mais je souligne d'abord cette expression, le Seigneur lui-même. Pour quelle raison est-ce que j'insiste ainsi sur cela, le Seigneur lui-même? Rappelez-vous de ce que les anges ont dit à la Pentecôte. Hein, quand Jésus a parlé pour cette dernière fois, alors qu'il était sur la terre, hein, leur disant qu'il enverrait le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit eh bien, les couvrirait, qu'ils seraient témoins, etc. Et puis il est dit, il a été enlevé sous leurs yeux. Et il est parti dans les nuées ou sur des nuées. C'était formidable, certainement, au point qu'ils étaient là tous baba un petit peu. Hein. Bon, j'imagine qu'on l'aurait été aussi, enfin, pour ce qui me concerne certainement. C'est quand même extraordinaire, qu'est-ce qui s'est passé, enfin voilà, il a disparu, et puis à un moment donné, les anges viennent, un ange vient pour dire, bon, mais oh, écoutez, c'est bon, maintenant, faut aller à Jérusalem, parce que Jésus avait dit, vous recevrez une puissance, Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, mais il fallait qu'ils aillent attendre à Jérusalem, et puis eux, ils oublient. Et l'ange vient pour leur dire, bon, ça va, maintenant, il faut aller à Jérusalem, attendez de recevoir le Saint-Esprit, parce que la vie continue. Jésus a été enlevé, mais bon, la vie, elle continue, et je ne vous laisserai pas orphelin, avait dit Jésus. Et cette parole des anges, acte 1, 11, où ils disent, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, il s'agit bien de Jésus. Le Seigneur lui-même. Pourquoi dis-je cela? Parce que certains enseignements courent pour dire qu'en fait, Jésus est revenu par le Saint-Esprit à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu. En fait, eh bien, c'était en quelque sorte Jésus qui est revenu et qui habite dans les croyants et qui eh bien, vit maintenant avec les croyants. Or, Jésus n'a pas dit qu'il viendrait sous la forme du Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il reviendrait lui-même. Et j'ai donc pris la peine de lire avec vous ces textes qui sont, n'est-ce pas, on ne peut plus explicites. Jésus a dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi ». On reviendra sur ce texte qui est fort intéressant lorsqu'on parlera des noces de l'agneau. Mais « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi ». Or, quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte et depuis qui est avec nous, n'est-ce pas, eh bien, que je sache, personne n'a été enlevé au ciel. En tout cas, l'Église n'a pas été enlevée. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est revenu, qui a en quelque sorte matérialisé le fait que le Seigneur revenait. Non, c'est Jésus qui revient. Ce n'est pas non plus, comme certains le disent, à la mort. Lorsque quelqu'un meurt, eh bien, le Seigneur vient pour le prendre avec lui. Non. Dans l'Écriture, il arrive dans certains textes, comme pour la fameuse histoire de Lazare et du riche, qu'il soit dit qu'un ange est venu chercher Lazare pour l'amener dans le sein d'Abraham, mais aucune part il est dit que Jésus vienne pour prendre ceux qui meurent, les amener avec lui, etc. En tout cas, ce n'est pas à la mort que Jésus revient nous chercher. Parce que ça aussi, vous voyez, c'est enseigné dans certains endroits. Donc, il ne s'agit pas de la venue du Saint-Esprit, il ne s'agit pas de la mort du croyant, il s'agit de ce moment formidable où le Seigneur lui-même, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, celui que nous attendons, viendra pour nous chercher et nous prendre avec lui. Jésus lui-même. Et de notre côté, c'est quelque chose d'extraordinaire. En effet, pourquoi Jésus, tout simplement, n'aurait pas envoyé des anges? Pourquoi est-ce que Jésus, ben, par son esprit aussi, ne serait pas venu, ne viendrait pas nous chercher, tout simplement, ou envoyer nous chercher? C'est lui-même qui descend. Quand même extraordinaire, non? On ne réalise pas toujours ça. Mais Jésus descend pour chercher, pour prendre avec lui son Église. Mais quelle grâce! Parce que finalement, nous sommes qui? Ah oui, bien sûr, on est l'Église de Christ, on est l'épouse de Christ, on est justifié, enfin tout ce que vous voulez. Mais bon, frères et sœurs, on n'est quand même pas parfait. Mais Jésus, qui a là maintenant, est roi des rois et seigneur des seigneurs, pas simplement le Jésus-homme fait homme, le serviteur. On l'a dit ce matin, c'est le roi des rois qui revient dans toute sa gloire. Qui est majestueux, regardez, il n'y a qu'à lire le premier chapitre de l'Apocalypse, la description que Pierre fait du Seigneur. Il dit quelqu'un qui est semblable, alors dans certaines versions c'est encore semblable à un fils de l'homme, mais dans le texte original c'est semblable au fils de l'homme, parce que Pierre a connu le fils de l'homme. Comprenez, quand Jésus était vivant sur la terre, bien, Pierre était avec lui, il l'a connu. Il l'a même connu sur le mont de la Transfiguration. Donc là aussi, il a eu une autre vision, si j'ose dire, de Jésus lui-même. Mais là, dans le livre de l'Apocalypse, il a une vision encore plus grande. Puisque quand on voit la description de ce personnage, ben, c'est tout simplement un personnage royal, c'est un personnage divin, qui est là au milieu des chandeliers, au milieu des églises. Et c'est ce Seigneur-là. C'est ce grand Seigneur-là qui vient chercher son Église. C'est quand même extraordinaire, frères et sœurs. Vous rendez compte? Jésus lui-même va venir vous chercher. Hein? Jésus lui-même va venir te prendre, mon frère. Jésus lui-même va venir te prendre, ma sœur. C'est Jésus. Il n'envoie pas un serviteur, c'est lui qui vient. C'est extraordinaire. C'est l'époux qui vient chercher son épouse. Deuxième chose que nous avons dans le texte, c'est un signal donné. J'ai mis ici une autre traduction, c'est une ancienne traduction, une vieille traduction, hein, le maître de Sassis. C'est de l'époque de Louis XIV, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Mais ça ne fait rien, la parole de Dieu, elle est toujours la même. Mais il est dit aussi, car aussitôt que le signal aura été donné. Aussitôt que le signal aura été donné. Pourquoi est-ce que je souligne cela? C'est parce que, figurez-vous que le mot que nous trouvons dans, ici ne se trouve qu'ici, dans le Nouveau Testament. Hein? Le mot signal n'est nulle part ailleurs. En tout cas, dans l'original, le mot original ne se trouve que là, keleousma. Et keleousma, c'est en fait un mot qu'on employait dans l'armée, par exemple, hein, s'il y a des militaires au milieu de nous. C'est l'officier qui donne un ordre à ses soldats. Le maître d'un navire qui donne, à l'époque, il y avait les rameurs, hein, voilà, donc qui donnait ses ordres, etc. En fait, si vous voulez, c'était un cri de guerre. Vous voyez, un cri de guerre. Un cri qui était là à la fois pour stimuler un petit peu les troupes, mais en même temps aussi semer un peu de trouble chez les ennemis. Hein. Un cri de guerre, un cri donc fort, etc., qui va s'entendre. Mais ce cri fort, autoritaire, parle aussi d'une grande excitation. Hein. Comme justement, à un moment donné, ben, les armées qui sont là, ils attendent que passer à la bataille parce qu'ils n'en peuvent plus d'attendre. Hein. Et j'allais dire comme les CRS qui sont là, qui attendent qu'un moment parce qu'à force de recevoir des boulons et des tomates et des trucs, ben, ils n'en peuvent plus. Ils attendent qu'un moment que le chef dise « Allez-y !» Boum. Alors là, c'est la capta, écartez-vous. Hein. Bon, c'est peut-être pas un bon exemple parce que le Seigneur ne va pas revenir comme un CRS, hein, c'est évident. Mais je veux dire par là qu'il y a, il y a cette attente d'un côté qui est la nôtre. Enfin, j'espère. J'espère qu'on est dans cette attente, on attend ce signal. Il y a quand même une excitation quelque part, hein, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je n'aurais pas de regret de quitter cette terre. Hein. Enfin, tant pis, peut-être vous allez dire qu'il est un peu sauvage, mais c'est possible. Mais moi, je n'aurais aucun regret de quitter cette terre. Il ne me tente qu'une chose, c'est d'être avec le Seigneur. Et il y a cette attente dans nos cœurs. D'un côté, il y a cela, et de l'autre côté, il y a ce cri, n'est-ce pas, très fort. D'ailleurs, on le trouve aussi dans la version des Septante, dans le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 27, où il est dit « Les sauterelles n'ont pas de roi, mais elles marchent toutes en ordre à un seul commandement. » Elles marchent toutes en ordre à un seul commandement. C'est le Seigneur qui a dit hein, « Va vers la fourmi paresseux, ou alors ailleurs, hein, il dit, eh bien, va vers les animaux et instruis-toi, enfin, etc. Ben, les sauterelles n'ont pas de roi, mais c'est vrai que c'est étonnant. Enfin, dans nos régions, les sauterelles font un peu, c'est un peu comme nous, hein, elles vont un peu dans tous les sens. Mais il y a certaines régions, quand c'est hélas, quand il y a les criquets, les sauterelles qui arrivent, c'est une véritable armada qui arrive. En vol groupé et quand elles se posent toutes au même endroit et puis à un moment donné on dirait qu'il y a comme un ordre qui est donné, elles repartent toutes en même temps, mais quand elles sont reparties le paysage n'est plus le même, hein, voilà. Mais c'est un petit peu ça, il y a à un moment donné il y a un ordre, on ne sait pas trop comment il vient cet ordre parce qu'on n'entend rien quand les sauterelles se posent ou quand elles repartent, il n'y a rien, mais bon, c'est le livre des Proverbes, hein. Les sauterelles n'ont pas de roi mais elles marchent toutes en ordre à un seul commandement. Et en fait, c'est le cri, j'allais dire, c'est le signal, en fait, c'est un cri pour les morts de ressusciter, comme pour le cas de Lazare. Hein, vous vous rappelez de Lazare, Jean 11, 43, hein, ce cri, quand Jésus dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et moi, j'aime bien la suite. Je ne l'ai pas marqué, mais j'aime bien la suite. Et le mort sorti. Moi, c'est ça que je voyais. C'est... Bon, je suis un peu un gamin, hein, excusez-moi. Mais moi, j'aime bien. Et le mort sorti. Bon, Lazare sorti, c'était bien, quoi, déjà. Mais non, le mort sorti. Pour bien nous faire comprendre qu'il n'était pas vivant. Hein, c'est... Et un mort qui sort d'une tombe, vous vous rendez compte. Il y en a qui payaient au cinéma pour aller voir ça. Mais... Hein, le mort qui sort, oh là là, je ne sais pas comment ça a dû faire. Moi, je suis sûr qu'il y en a qui ont poussé des cris. Je suis certain. Ah, voilà, on voit apparaître Lazare. Vous imaginez? Ben, c'est ça. Hein, Lazare sort, il y a un ordre. Et boum, et ben, Lazare, il n'a pas pu faire autrement. Et je ne sais plus, je crois que c'est Spurgeon ou je ne sais plus qui, ou Moody, qui avait dit, pourquoi il a dit Lazare? Parce que s'il n'avait pas dit Lazare, c'est tous les morts qui sortaient. Donc, Lazare sort, voilà. Donc, c'est Lazare qui est sorti. Et bien, quand il va venir, hein, c'est le signal, c'est le cri pour l'Église. Pour l'Église, frères et sœurs, qui va être ainsi enlevée à sa rencontre. Alléluia. Et ça, c'est formidable. Alors, je passerai sur la voix d'un archange, et puis il y a aussi donc le son de la trompette de Dieu. Et il y a plusieurs textes dans l'Écriture où il est question de cette trompette de Dieu. Hein, Matthieu 24, 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Mais le texte qui est là, il ne parle pas de l'Église, ce texte-là. Hein, il parle d'Israël. Mais je l'ai pris parce qu'il est question, encore une fois, de la trompette retentissante. La trompette retentissante. Mais là, il est dit, il enverra ses anges pour rassembler les élus. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit, pour l'Église, il n'envoie personne, c'est lui qui vient. Vous voyez ? Ce matin, vous rappelez, on aura l'occasion de peut-être le replacer, de le repréciser cela. Ce matin, je vous ai dit, il y a trois grandes destinées dans la Bible. Il y a les nations, il y a ensuite les Hébreux, Israël, qui est issu des nations, et puis il y a l'Église. Et ne confondons pas avec la parole de Dieu par rapport à ces trois destinées. Parce que ce n'est pas du tout la même. Peut-être j'en reparlerai un peu plus précisément dans les prochaines fois. Mais il y a donc les nations ont une destinée. Et j'allais dire, elle est presque linéaire, puisqu'en fait, eh bien, elle va jusqu'au jugement dernier. Des nations est issu le peuple hébreu, parce qu'Abraham n'était pas juif. Ok ? Chaque fois que je dis ça, j'aime bien que je le dis, parce que chaque fois que je dis ça, il y en a qui ont l'air de tomber des nues. Mais Abraham n'était pas hébreu, c'était un chaldéen. D'accord ? Et c'est ensuite d'Abraham que va venir et le peuple hébreu et la bénédiction pour, en tout cas ce que Dieu voulait, la bénédiction pour les nations, pour le monde. Hein. Mais donc ensuite, à partir de là, de l'appel d'Abraham et d'Abraham, eh bien, on va commencer la destinée pour le peuple d'Israël. Vous voyez, qui va continuer, se poursuivre elle aussi, hein, jusque, malheureusement, traversant la tribulation, traversant ces moments de grand jugement et de grands troubles, parviendra jusqu'au millénium et ensuite, eh bien, sous le règne de Christ. Et puis il y a l'Église. Et l'Église, elle, est issue à la fois des nations, à la fois du peuple hébreu ou du peuple israélite. Parce que, comme on l'a dit ce matin, il n'y a plus ni juif ni grec. Et excusez-moi de dire ça comme ça, mais l'Église, en gros, c'est comme une parenthèse. C'est un temps particulier. Et c'est un temps formidable puisque nous en sommes. Nous faisons partie de ce peuple extraordinaire qu'est l'Église. C'est l'épouse de Christ. C'est l'épouse de Jésus, vous voyez ? Et c'est un privilège particulier, j'allais dire, Jésus a un soin particulier pour l'Église. Mais vous avez remarqué, je l'ai dit, c'est juste une parenthèse. Elle est née là, avec la venue de Jésus, la mort sur la croix, la Pentecôte, et puis bientôt, elle va être enlevée. À partir de là, elle sera avec le Seigneur, dans les airs, etc. Elle reviendra avec lui sur la terre. Mais la destinée va continuer sur la terre, la destinée des nations, la destinée du peuple juif, sauf que l'Église, elle sera... Eh bien, j'allais dire, entre guillemets, elle sera à part, préservée de tout ça. Vous voyez ? Comme quand Dieu disait, comme Jésus a dit à cette église, dans le livre de l'Apocalypse, « Je te préserverai à l'heure de l'épreuve. Hein » À l'heure de l'épreuve. « Que le nom du Seigneur soit béni. » Le son de la trompette. Donc, une trompette retentissante. Et pour ce qui est de l'église, eh bien, Paul dira, dans 1 Corinthiens chapitre 15, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Chaque fois que la trompette a retenti dans la Bible, c'était pour marquer quelque chose, un temps vraiment particulier, à la fois pour attirer l'attention, pour éveiller en quelque sorte aussi l'attention, mais en même temps pour avertir. La trompette, elle était utilisée, ou la trompe, ou le chauffard, enfin comme vous voulez, mais elle était utilisée par le peuple de Dieu pour leur fête. c'était le départ de la fête, on sonnait de la trompette pour marquer le début de la solennité. Et toujours, toujours, toujours associé le cri de la trompette avec les théophanies, les apparitions de Dieu. Chaque fois que Dieu est apparu, il y a eu le son de trompette. Par exemple, il est dit au mont Sinaï, quand Dieu est venu, que la loi a été transmise à Moïse par les anges, au son de trompette, etc. Les jugements aussi, les convocations du peuple, et convocation des convocations, si j'ose dire, là, au moment où le Seigneur vient pour prendre son Église. Généralement, à l'époque du Nouveau Testament, les sons de trompette annonçaient l'arrivée des magistrats et particulièrement des rois en visite. Quand un roi venait, on sonnait de la trompette pour signaler son approche. Et quand la trompette de Dieu sonnera, il est dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ça peut aussi se traduire, se lèveront ou se tiendront debout. C'est l'annonce du roi qui arrive. Et quand le roi arrivait, de nos jours aussi, pas forcément le roi, parce qu'en France, on en a un demi, mais en principe, quand les rois arrivaient, on se levait. Voilà, et certains se prosternaient. Nous avions appris à l'école que quand il y avait le directeur qui arrivait ou un adulte qui arrivait, hop, on se levait, on ne savait pas qui c'était, mais hop, on se levait, etc. C'est un peu cela. Vous voyez, des millions, des millions, des millions de croyants dont les corps reposent dans la tombe et ailleurs, comme on le disait ce matin, entendront ce signal, entendront la trompette de Dieu, entendront ce cri. Et à ce moment-là, tous ceux qui seront sauvés, non seulement de cette génération-là, mais toutes les générations précédentes, de toutes les époques, de tous les temps, se lèveront, ils ressusciteront, ils se lèveront. Alléluia. Ça va être extraordinaire, frères et sœurs. Moi, je suis un peu excité avec ça, mais bon. La diapo suivante, il est dit, il descendra du ciel. Et c'est là que je précise ici, n'est-ce pas, qu'il ne s'agit pas de son retour sur la terre. Là, c'est, il s'agit de sa venue pour l'Église. Ce que vous avez vu, j'ai marqué avènement. Cet événement, la parousie. La parousie, c'est quoi? C'est la présence. La parousie, ça parle non seulement de l'arrivée, mais de la présence effective. Or, quand on parle de la parousie ou de l'avènement dans le Nouveau Testament, on parle du retour de Jésus sur la terre, de sa présence sur la terre. Et c'est vrai que des fois, il y a les confusions. Je ne vais pas rentrer dans trop les détails, là, mais dans la Bible, il y a trois grands mots qui sont l'apocalypse, la parousie et l'avènement, qui parlent un petit peu de la même chose, mais avec des nuances différentes. Ici, tout simplement, c'est la venue dans les airs, pas son retour, disais-je, sur la terre, comme on le voit dans d'autres textes. Au retour de Jésus, il vient et il sera présent, et tout œil le verra. Ça, c'est, n'est-ce pas, la parousie. On le voit, il est présent. Pierre l'utilise quand il parle de la présence de Christ sur le monde de la transfiguration. 2 Pierre 1,16, quand il raconte cet événement, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Quand on parle d'avènement, on parle de voir. Alors pour nous, ce sera une forme d'avènement parce que nous allons voir Jésus, mais le monde ne le verra pas. À ce moment-là, le monde ne le voit pas. Tout ce que le monde verra, c'est qu'il manque du monde. C'est que tout d'un coup, des gens ont disparu. J'ai essayé, mais je ne l'ai pas retrouvé, une toute petite vidéo là, de je ne sais pas, 3 minutes. Ma femme l'a vue, alors elle me dit ah oui. Mais c'est un film, bien entendu, mais c'est assez intéressant. On voit un quai de gare, Il y a des personnes qui sont là en train d'attendre. Le train arrive, les gens montent dans le train part, et puis sur un banc, on voit les affaires d'un gars qui était là, assis avant, mais qui n'y est plus. Il n'est pas monté dans le train. Un autre endroit, ne me lapidez pas, mais un autre endroit, il y a un couple. Hein, le mari et la femme sont là, ils mangent ensemble, ils se donnent la main, etc. Et à un moment donné, le mari prend son épouse par la main et il y a l'alliance, il tient l'alliance, et puis pouf, l'image d'après, il reste avec l'alliance dans la main et l'épouse n'est plus là. Et dans un autre endroit, c'est un papy, une troisième scène, c'est un papy qui pousse sa petite fille qui est sur une balançoire. Là. Donc il la pousse, il la pousse, il la pousse. À un moment donné, il pousse, la petite fille avec la balançoire bien s'en va. Et puis quand la balançoire revient, il n'y a plus que la balançoire, la petite fille n'est plus là. Enfin, deux, trois scènes comme ça qui sont quand même parlantes, parce que ça, c'est la réalité, vous voyez ? C'est l'avènement pour nous, mais ce n'est pas l'avènement d'une manière globale, c'est-à-dire tout le monde ne le verra pas, il n'y a que nous qui allons être enlevés à se rencontre dans les airs. Et c'est important, n'est-ce pas, de réaliser que ça veut dire non seulement sa venue momentanée, mais sa présence pour nous. C'est à partir de ce moment, nous le verrons. Mais le monde devra attendre son retour sur la terre pour le voir. À ce moment-là, personne ne le verra. Certainement, personne n'entendra cette trompette, la voix de l'archange. Et ceux qui l'entendront, ne sauront pas de quoi il s'agit. Vous vous rappelez, pour Paul, quand sur le chemin de Damas, il entend le Seigneur qui lui parle, les autres qui étaient avec lui, ils se demandent si c'est le tonnerre, ils ne comprennent rien, il y a un bruit, il y a un son, mais ils ne savent pas ce que c'est. Eh bien, ce sera la même chose. Il n'y a que ceux qui seront enlevés qui vont réaliser ce qui est en train de se passer. Ce sera là quelque chose d'extraordinaire. Mais quand Jésus reviendra sur la terre, ce sera un apocalypse. Pas dans le sens catastrophique du terme, mais tout simplement une révélation, un dévoilement de ce qu'il est vraiment, de ce qui est caché, de sa puissance, de sa gloire, qui sera alors manifestée au monde dans cet éclatement de la gloire. Et c'est là qu'il est dit, ils se lamenteront. Tout œil le verra, ils se lamenteront, parce qu'ils, non seulement Israël, bien sûr, mais aussi les autres, reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Je vais aller un petit peu plus loin. Ce matin, on a vu les morts en Christ, d'abord. Donc, je ne vais pas trop insister là-dessus. Sinon pour dire que il n'y a que les croyants qui ressusciteront à ce moment-là. J'insiste, que les croyants qui ressusciteront à ce moment-là, les autres attendront la fin des temps. Ce qui veut dire qu'il n'y a que là où il est question du salut. Parce qu'à la fin des temps, il n'est pas question du salut. Les morts ne ressuscitent pas pour s'entendre dire qu'ils sont sauvés, ils ressuscitent pour s'entendre dire qu'ils sont perdus. Alors permettez-moi de vous dire que c'est là. Il ne faut pas louper le départ. Il ne faut pas louper le train en marche ou l'avion, si vous voulez. Mais il ne faut pas louper, parce que c'est là. Et j'oserais dire, c'est là la dernière occasion. On en reparlera, parce que je sais que ça crée pas mal de polémiques, mais on en reparlera. C'est la dernière occasion. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, dit la Bible, c'est le moment du salut. Mais il arrivera un moment où l'Église aura été enlevée, l'Esprit sera parti. Et à partir de là, le temps de la grâce terminé. La parenthèse est fermée. Et c'est pourquoi il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous soyons prêts. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre, disais-je, ceux qui parlent. Enfin, quand la parole de Dieu parle des signes qui concernent Israël, les signes qui concernent les nations, ça c'est une chose. Mais pour ce qui concerne l'enlèvement du Seigneur, c'est-à-dire l'Église qui part avec le Seigneur, l'enlèvement de l'Église par le Seigneur, il n'y a pas de signe. Il n'y en a qu'un, mais c'est trop tard. Signal donné. Terminé. Israël a ses signes pour savoir que les temps sont là. Les nations ont leurs signes pour savoir que les temps sont là. L'Église, elle, n'a pas de signes. Parce qu'en réalité, j'allais dire en théorie, non, mais en principe, elle est en communion avec son Seigneur. Et quand le signal sera donné, ce n'est pas pour dire « je viens bientôt », c'est pour dire « allez, hop, tout le monde avec moi ». Et à ce moment-là, nous serons tous enlevés. Il ne faut pas louper ce moment-là. Ensuite, est-il dit, donc, la diapo suivante, merci, il nous est dit, ensuite, nous, les vivants. Mais le mot épaïta, en fait, marque la rapidité dans la suite des événements par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à cette résurrection des morts. Parce qu'en français, quand on lit, bon, il y a la résurrection des morts, et puis ensuite, nous, les vivants, on a l'impression qu'il peut se passer, je ne sais pas moi, des jours, des heures, des siècles, mais c'est tout en même temps. Et le mot épaïta, qui est le mot, en français, c'est le mot ensuite, on ne peut pas le traduire autrement, mais c'est en grec, il y a plusieurs mots pour dire ensuite, pour définir la suite du temps, la longueur du temps, ça c'est la rapidité. C'est-à-dire tout de suite après, tout de suite. Tout de suite, eh bien, les vivants, alors, diapo suivante, on va aller un peu plus vite, nous serons tous ensemble enlevés. Personne ne restera. Alléluia. M'attendez un gros alléluia. Personne ne restera. Pas un chrétien ne restera. Pas un converti ne restera. D'autres resteront, ça c'est une autre paire de manches. Tout c'est de savoir si on est chrétien, pas de nom, mais véritable, né de nouveau, converti. Si on s'est repenti de ses péchés, si on a demandé pardon à Dieu pour ses péchés, si on a accepté que Jésus nous purifie, nous lave de nos péchés, de nos iniquités, si nous sommes convertis véritablement et nés de nouveau, eh bien nous partirons, personne ne restera. Il n'oubliera pas quelqu'un. Hein ? Parce que souvent, vous savez, on en oublie toujours un, vous avez remarqué. Et des fois, quand il y a un rassemblement ou autre, et le frère Antel, tellement discret le frère, on l'oublie toujours, hein, ou on cite des choses, des noms, etc., on en oublie toujours un, mais pas le Seigneur, pas le Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui es timide, n'aie pas peur, personne ne restera. Tous ensemble. Mais comme j'ai dit, excusez-moi d'être un peu lourd, il n'y aura pas un autre convoi. Sinon, il ne faut pas le louper. Hein. Tous ensemble. Nous avons travaillé ensemble sous l'autorité du Seigneur. Nous avons été en communion les uns avec les autres pendant notre vie sur la terre. Et quand il viendra, eh bien nous serons enlevés ensemble pour rencontrer le Seigneur dans les cieux. Que son nom soit béni. Et là, il y a deux mots importants. Deux mots importants. Le premier, c'est un mot, je vous le dis parce que vous allez comprendre, Arphage Someta. Qui a donné Arpagon. Et qui c'est Arpagon, hein, dans le théâtre de Molière, Arpagon, c'est l'avare. Hein, et c'est le mot qui est employé ici. C'est le mot qui est au futur. C'est-à-dire, il y a un moment particulier, spécifique, dans le futur, où nous allons être littéralement saisis par le haut. Arrachés même. Le mot est très fort. En anglais, c'est... Alors, excusez-moi pour l'accent, hein, pour les anglophones au milieu de nous, hein, Rosetta, mais c'est le mot rapture. Rapture, voilà. Kidnapping. Voilà, si vous voulez, ça comprend. Le kidnapping, c'est ce mot-là qui est employé. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se fait d'un coup, on ne voit pas arriver. Hein, c'est justement le mot qui est employé là. Celui qui... Vous savez, Jésus l'emploie. Matthieu 23, 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. C'est le même mot. Curieux, hein, vous allez me dire, Jésus, pourquoi il emploie ce mot? Mais parce que le mot arphage someta, c'est pas un mot typiquement, j'allais dire, chrétien, vous voyez. C'est un mot qu'on employait, comme nous, on emploie, je l'ai dit tout à l'heure, le mot avarice, le mot avare, etc., ou la rapine. Pour dire que c'est quelque chose qu'on fait vite. Le voleur, il n'est pas... Attendez, vous avez vu, je vais faire quelque chose. Non, tout de suite, on ne se rend même pas compte. Il vous a mis la main à la poche, il a pris le portefeuille, vous n'en êtes même pas rendu compte. Cette image-là, je parle de l'image, de la rapidité, de la soudaineté. dans Hébreux 10, 34, en effet, et là, ça s'adresse aux chrétiens hébreux, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous aviez des biens meilleurs et qui durent toujours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas le temps de réfléchir là. On n'a même pas le temps de dire au Seigneur, attends Seigneur, j'ai pas fini ça. Attends Seigneur, il faut que je mette ça en règle. Ou je... Non, rien du tout. Tiou, c'est comme ça. On est arraché. Le mot est violent. Et j'ai trouvé, bon, c'est pour ça que je le dis, parce que j'ai trouvé quand même extraordinaire qu'il y ait un mot d'une telle violence ici. Alors qu'on parle de l'enlèvement de l'Église, on va être vers le Seigneur. Mais c'est pour dire, ça va se faire comme ça tout d'un coup, le choc. On n'a pas le temps de rien, on n'a pas le temps de s'accrocher à quoi que ce soit, on n'a pas le temps de le voir venir, on va partir. J'insiste encore, soyons prêts. Soyons prêts. Et puis alors, à la rencontre du Seigneur. Ça paraît un peu chargé derrière, mais à la rencontre du Seigneur. Et ça, c'est un autre mot important qui est traduit ici, le mot « rencontre ». Parce que dans le texte grec, dans le monde grec, c'est aussi un petit peu technique, voyez. Parce que c'est en relation avec la visite d'un dignitaire, d'un roi, dans une ville. Et généralement, il rencontre d'abord une délégation de citoyens ou les autorités de la ville, avant de rencontrer ensuite, voyez, le peuple. Sauf que dans, j'allais dire, le protocole, quand le souverain, quand le dignitaire s'approche de la ville pour lui rendre visite, eh bien, les responsables, donc ces gens qu'il doit rencontrer en premier, ce sont eux qui viennent jusqu'à lui, j'allais dire, d'une manière un peu cérémonieuse. Rappelez-vous l'entrée de Jésus à Jérusalem. Acte 28. D'abord, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Vous rappelez ce qui se passe ? Jésus est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Alors souvent, on dit, bon voilà, c'est l'image de l'humilité de Jésus. En fait, ce n'est pas ça. En fait, Jésus vient comme un roi. Monté sur un ânon, petit d'une ânesse, parce que quand le roi venait avec, j'allais dire, des intentions pacifiques, il venait monter sur un ânon. Quand le roi venait monter sur un cheval, aïe, aïe, aïe. Il venait pour régler des comptes, c'était la guerre ou peu importe. Et quand Jésus vient monter sur un ânon vers Jérusalem, c'est le roi qui vient dans sa capitale, qui vient dans sa ville, qui vient à Jérusalem, mais pour y apporter la paix. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est ce moment extraordinaire que vous connaissez, parce que le peuple reçoit là un message de paix. Et ils ne voient pas simplement un humble rabbi qui vient, mais ils ont vu le roi majestueux. On met les vêtements, les manteaux sur la route pour faire comme un tapis, en fait. Hein, aujourd'hui, on déroule le tapis rouge. Ben là, ils avaient mis des vêtements et on agitait des branchages. On reconnaissait le roi qui revenait. Alors, bien sûr, il y avait les prophéties, tout cela, Zacharie et autres, et on a compris certaines choses. Et c'est exactement ça. L'enlèvement de l'Église, eh bien, c'est ça. Nous allons à la rencontre de notre roi. Alléluia, que son nom soit béni. Également, dans le livre des Actes, au chapitre 28, verset 15, Luc dira de Rome vers à notre rencontre avec Paul et ceux qui l'accompagnaient, jusqu'au forum d'Appius, aux trois tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce et prit courage. Une délégation. Après, il est dit que nous partons sur des nuées. Mais littéralement, ce n'est pas sur des nuées. Littéralement, c'est en nuées. En nuées. Ce qui veut tout simplement dire, non pas que nous serons enlevés dans les nuages ou sur des nuages, mais que nous serons de véritables nuées de croyants, des millions, des milliards qui seront enlevés. Vous imaginez cette vision, ça va être extraordinaire. Bon, moi, je fais un peu mon film, mais moi, il me semble voir ça, c'est tout d'un coup, on part, et puis on regarde à perte de vue tout autour de nous. Il y a des frères, des sœurs, on en connaît certains, mais on n'en connaît même pas une part. Et tous ensemble, on part. C'est une véritable nuée, vous voyez. Une nuée de croyants, une nuée de chrétiens qui vont être enlevés. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, la vie chrétienne, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Nous, on est dans un monde là où on est laïque, alors attention, on veut toujours tout rapetisser, on veut toujours, on est chrétien dans nos petites salles, on est chrétien dans nos petits coins, on est chrétien dans nos petites réunions. Mais mes amis, il faut qu'on élargisse un petit peu la vision, il faut qu'on regarde un petit peu plus haut, parce que, oui, bien sûr, encore on ne se plaint pas ici, mais je veux dire, des endroits où on est une poignée, oui, mais tous ensemble. Et tous ensemble, parce que ce n'est pas uniquement, tant pis, hein, je vous le dis, ce n'est pas uniquement les chrétiens de Arles qui vont être enlevés, ou les chrétiens de Marseille, ou de je ne sais pas où. C'est tous ensemble, toute une nuée de croyants qui vont être enlevés. Vous imaginez cela? Est-ce que vous serez des nôtres? Oula. Et les autres, non? Et j'espère aussi, mais... Sinon, il faut revoir les choses. Hein. Non, mais c'est pour nous, frères et sœurs. C'est pour nous. Il vient, d'ailleurs, il est dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 7, « Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Il vient avec les nuées. Alors, certains disent, pensent qu'il va venir avec les nuages. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils vont faire, les nuages? Quand les nuages viennent, ici on n'aime pas trop, il y a des endroits, ils sont contents parce qu'il va pleuvoir un peu, mais il vient avec les nuages. Non, il vient avec nous. Et les nuées, c'est nous. Avec une nuée de chrétiens qui tout simplement est l'Église de Christ. Et puis, encore autre chose, toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. Pendant la tribulation, voyez, qui elle aura lieu sur la terre. Là aussi, il faudrait, on en parlera un petit peu peut-être. Parce que pendant que nous serons partis et que nous serons là-haut dans le ciel, mes amis, sur la terre, il ne fera pas bon vivre. Parce que là, il n'y a plus rien qui retient l'Antichrist. La Bible dit que l'Antichrist, il agit déjà, mais doit paraître. Celui qui est, j'allais dire, l'essence même de tout cela. Et à partir de là, ça va être une drôle d'histoire. Tant pour le peuple d'Israël que pour, malheureusement, les habitants sur la terre. Vous connaissez ces textes. C'est ce qui va se passer sur la terre. Mais pendant que ça se passera sur la terre, alors frères et sœurs, tant pis si vous me dites que vous êtes un peu égoïste, mais pendant que ça se passera sur la terre, nous on sera dans le ciel. Vous voyez, gloire à Dieu. On sera dans le ciel. Parce que certains pensent que on va connaître l'expression la grande tribulation. Dans la Bible, il faut savoir qu'il y a la longue tribulation et la grande tribulation. Et souvent, il n'y a que mot, c'est la grande tribulation. En fait, la tribulation a déjà commencé. La longue tribulation a déjà commencé. Il y a longtemps qu'on est dans la longue tribulation. Mais quand, comme dit Paul, ce qui le retient sera enlevé, alors cette longue tribulation deviendra la grande tribulation, avec toutes les horreurs qu'on peut imaginer. Et nous, pendant ce temps-là, nous serons déjà avec Christ. 2 Thessaloniciens 2:17, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie. On accompagnera Christ sur la terre à Armageddon. Parce qu'on y sera. Peut-être qu'on n'a pas l'âme d'un guerrier, vous allez me dire, mais on y sera. Apocalypse 1:7 ou 19:14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Certains disent, mais c'est les anges. Non, pour les anges, il y a autre chose. Vous savez ce que c'est que le fin lin blanc pur, le vêtement, la robe de fin lin blanc pur? Ce sont les œuvres justes des saints. Et ceux qui sont revêtus, eh bien, ce sont les saints. Donc c'est nous qui serons avec le Seigneur. C'est nous qui allons revenir avec lui. Alors je vous rassure, hein, vous n'avez pas besoin de prendre l'épée, hein, parce que si vous faites comme moi, il vaut mieux que vous écartiez d'à côté de moi, parce que je ne sais pas trop m'en servir. Mais non, mais on sera avec le Seigneur. On sera avec lui à Armageddon. On sera avec lui dans la nouvelle Jérusalem. Oui, déjà avec le millénium. Merci frère. On sera avec lui, n'est-ce pas, pendant le millénium. Apocalypse 26. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis, eh bien, on sera avec lui aussi dans la nouvelle Jérusalem. On descendra avec le Seigneur dans notre résidence sur la nouvelle terre pour y vivre à jamais. Élisée, Apocalypse 21 et 22. Voici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Et c'est qui ? L'épouse de Christ. C'est nous. L'événement le plus extraordinaire sera certainement de voir pour la première fois notre Seigneur Jésus face à face. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est extraordinaire tout ça. Mais on sera avec Jésus face à face. Et quelle sera notre première réaction ? Vous y réfléchissez un peu ? Non, vous n'êtes pas comme moi. Mais moi, des fois, je décolle et je pars. Je fais des voyages extrastellaires. Mais qu'est-ce que ce sera ma première réaction, ma première pensée, parce que tout ça, on l'a dit, ça va se faire d'un clin d'œil. Et puis tout d'un coup, je vais voir le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui sera le plus extraordinaire? Dites-moi. On va retrouver nos familles. On va peut-être découvrir enfin comment était Abraham. À quoi ressemblait Paul? Enfin, j'en suis rien, moi, j'ai extrapolé. Mais hein, vous imaginez? Retrouver nos familles, nos frères, nos sœurs en Christ, tout ça c'est formidable. Est-ce que c'est ça d'abord ? Non, c'est Christ. C'est Jésus. C'est Jésus, la première chose. Et c'est lui qui est l'objet, qui sera l'objet de notre émerveillement, de notre adoration, de nos cantiques. Regardez dans le livre de l'Apocalypse. Chaque fois qu'il est question de l'Église, qui est dans la présence du Seigneur, avec les saints, avec bien sûr tous les êtres célestes, c'est quoi ? C'est un cantique, c'est une louange, hein, c'est des cris de joie, des exclamations de joie. Et c'est ça finalement. Et on loue qui ? Le Seigneur. Vous regarderez les cantiques qu'on peut avoir, il y en a 4 ou 5, vous les lisez, toute la louange toujours revient au Seigneur. Il n'est pas dit, oh, quelle ville magnifique, avec des machins, les rues pavées d'or, enfin, je sais pas, tout ce qu'on peut inventer. Non, il n'est pas dit, oh, que c'est beau le ciel, je n'avais pas pensé. Non, c'est toujours le Seigneur, c'est béni soit celui, béni, etc. C'est toujours, toujours le Seigneur. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est ce qui devrait être, voyez, sur la terre, le dimanche matin, quand nous louons le Seigneur. Bien sûr, c'est formidable tout ce qu'il fait pour nous, mais c'est lui qui est formidable avant tout. Et c'est ça qui doit être le leitmotiv, la motivation de notre vie sur la terre. Jésus, Jésus, Jésus. Le salut des perdus, de nos bien-aimés, etc. Le bien-être aussi spirituel de nos frères et sœurs, mais dans un but, la gloire de Jésus. Même le Saint-Esprit que Jésus a envoyé. Il glorifie Jésus et pas autre chose. Et veillons à ne pas glorifier, j'allais dire, je ne sais pas quoi, les bâtiments ou autres. Parce que le Saint-Esprit nous amène toujours à glorifier Jésus. Et je termine avec donc cette pensée, consolez-vous. J'ai marqué, parce que parakaléo, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle du paraclète. C'est la même famille, c'est le même mot en gros, hein, c'est la même racine. Ce même mot que l'on trouve là au verset 1 de cette épître Timothée chapitre 4. Reste frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. C'est le même mot. conjurons. Au verset 10, nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Alors, je ne sais pas pourquoi là, on a traduit consoler. Au verset 1 ou 2, on traduit conjurer. Au verset 10, on traduit exhorter. Mais en fait, c'est le même mot qui, à l'origine, tout simplement, veut dire appeler auprès de soi. Inviter. Prier instamment. Et ce que ce texte nous dit, c'est que, frères et sœurs, nous devons nous exhorter, nous encourager, nous fortifier, nous consoler quand on est dans la tristesse, avec justement cette pensée-là. L'enlèvement de l'Église, le retour du Seigneur. Dieu ne nous révèle pas les événements de la fin, de son retour ou de l'enlèvement de l'Église, comme on l'a dit ce matin, simplement pour satisfaire notre curiosité, mais pour que nous nous préparions et que nous nous encouragions mutuellement, frères et sœurs. Encourageons-nous. Allez, ma sœur, encore un peu, le Seigneur est là. Allez, mon frère, reprends. Allez, relève-toi. Et en avant, le Seigneur revient. Et nous allons partir tous ensemble. Et il faut que nous nous encourageons, frères et sœurs. C'est un trait marquant de l'Église, où les frères et sœurs s'encouragent mutuellement, se fortifient mutuellement, se soutiennent mutuellement. Et il y a des choses extraordinaires qui ne sont pas dans notre propos, bien sûr, mais qui sont écrites dans l'Écriture. Supportez-vous les uns les autres. Hein ? Pas dans le sens « je supporte ma belle-mère », mais bon, mais dans le sens de se donner un support, de s'offrir un support. Littéralement, c'est « étayez-vous hein, », mettre un été, supporter, soutenir les uns les autres. Exhortez-vous, encouragez-vous, fortifiez-vous. Le Seigneur revient. Alléluia. On va remercier le Seigneur. Demain, nous irons un petit peu plus loin. Enfin, on restera là, mais je veux dire, on ira un peu plus loin dans les textes. Hein. Et nous laisserons le Seigneur encore nous encourager par sa parole. Seigneur, quelle grâce de nous rappeler encore cet après-midi que tu es là maintenant, que tu reviens, que nous allons être enlevés à ta rencontre dans les airs, Seigneur. Ça paraît tellement inimaginable. Seigneur, et pourtant c'est bien là la vérité. Alors, Seigneur, nous voulons tous être prêts, tous autant que nous sommes ici. Et si parmi nous quelqu'un ne l'était pas, Seigneur, touche encore son cœur, je t'en prie. Seigneur, qu'il réalise que il n'y a qu'un seul enlèvement. Seigneur, donne à cette personne de s'abandonner entièrement à toi pour être sauvé et pour qu'il soit enlevé avec nous à ta rencontre dans les airs. Merci, toi le roi des rois et le seigneur des seigneurs, de venir toi-même chercher ton épouse. Et nous te louons, Seigneur, pour ta grâce et ta bonté, au nom de Jésus. Amen.
Voilà, on se retrouve demain soir, hein, à 18h30. Voilà, que Dieu vous bénisse.